Bon, ce qu'on peut dire vite fait, ben, c'est un parti qui représente, on va dire, il me semble, le futur, c'est-à-dire l'humanisme, c'est-à-dire un monde où vraiment on voit avant tout l'être humain, et ça se décline dans l'économie, dans la vie sociale, dans une démocratie réelle et non pas une démocratie formelle, comme on l'a vu hier.
Ça a été créé en quelle année ?
Ça a été créé en 1984, simultanément dans le monde entier, c'est-à-dire que c'est pas un parti qui reste uniquement cantonné à un pays, mais qui veut un changement véritablement mondial.
Alors sur votre site, j'ai vu la date de 1929 avec un monsieur, j'ai oublié le nom. Tu n'étais pas au courant
Non, c'est-à-dire le parti en tant que tel, bon, il peut y avoir des références, effectivement, à d'autres humanistes, parce qu'on est dans une continuité historique, heureusement, de plein de gens qui ont contribué à essayer de faire avancer l'humanité. Mais en tant que parti humaniste, en 1969, je pense que tu veux dire, effectivement, il y a une personne qui s'appelle Silo, qu'on pourrait dire un guide spirituel, d'une certaine manière, qui a fait une déclaration qui a lancé les bases, les fondements d'un mouvement qui plus tard a pris le nom de mouvement humaniste.
Alors, il est dans combien de pays ?
Alors, un peu plus d'une centaine. Alors, dans certains pays, il n'y a pas de possibilité de le légaliser dans le sens où ça serait dangereux pour les personnes. Donc, il travaille, mais disons, plus en tant que mouvement, et j'allais dire, entre guillemets, dans la clandestinité. Mais dans la majorité des pays, c'est bien légalisé. Donc, ça couvre les différents continents, Amérique latine, Europe, Asie, Afrique.
Amérique du Nord aussi ?
Amérique du Nord aussi, oui.
Ouais. D'accord, donc en France, il y a à peu près combien de personnes qui sont inscrites dans cette...
En France, il y a environ 200 personnes actives, plus environ, je dirais, 1000 sympathisants, des personnes qui donnent un coup de main momentané. Alors, ce que je dois dire avant tout par rapport au Parti Humaniste, on dit que c'est bien plus qu'un parti. Bien plus qu'un parti, pourquoi ? C'est-à-dire que... Un parti est nécessaire pour un changement social, c'est-à-dire que si un mouvement social et qu'après les luttes, on va dire, n'induisent pas un changement dans la loi, c'est sûr que l'injustice va continuer. Hein. Mais c'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'un parti politique, c'est pas non plus un changement culturel, c'est pas non plus un changement social, c'est-à-dire il faut agir sur tous les domaines. C'est vrai que le Parti Humaniste cible en particulier, on va dire, le champ politique, mais il représente, on va dire, un mouvement beaucoup plus large qui est un mouvement humaniste. Qui agit dans tous les domaines.
Vous travaillez beaucoup sur le désarmement aussi.
Voilà. Donc la candidature pour les législatives, on l'a axée sur ce thème en priorité. Pourquoi ? Parce que vraiment, c'est une urgence du moment. Alors c'est vrai qu'on a déjà commencé il y a un bon nombre d'années, c'est-à-dire, l'année dernière, par exemple, on a repris ce thème du désarmement nucléaire en annonçant qu'il y avait vraiment des changements dangereux. Hein, en France en particulier, en janvier de l'année dernière, Chirac a fait une déclaration où il disait que la doctrine de la dissuasion était dépassée, que maintenant les armes nucléaires pouvaient être utilisées pour défendre les intérêts de la France si elle sentait qu'ils étaient menacés. Donc nous, ça, cette déclaration qui est passé bizarrement, presque inaperçue. Hein, elle nous a vraiment fait frémir parce qu'elle suivait une déclaration de George Bush qui allait dans le même sens, qui disait que bon, la dissuasion, ça a fait son temps. Maintenant, ces armes-là, c'est des armes qu'on peut utiliser contre une puissance qui n'a pas d'armes nucléaires. Ce qui est quand même...
À savoir laquelle ?
Ben, c'est-à-dire contre n'importe quelle puissance. Par exemple, si demain, il y a un acte terroriste et... il y a 50 morts, on va supposer que ça vient, par exemple, de l'Iran.
Hein. On suppose,
hein. Hop, ils vont envoyer une bombe, on va avoir quoi, 2 millions de morts. C'est-à-dire que c'est complètement dingue, c'est-à-dire puisque c'est, faut quand même dire que aussi l'armement nucléaire, bon, ben, c'est une personne qui prend la décision, qui est le président de la République. Hein. C'est-à-dire qu'en même temps que Sarkozy a investi l'Elysée, ben, dessous, il y a le PC Jupiter, qui est le bunker, qui est caché sous l'Elysée, et c'est de là qu'il peut devenir le plus grand génocideur de la planète, puisque la France, quand même, a de quoi, théoriquement, hein, avec ses 358 têtes nucléaires, tuer 1 milliard de personnes. Alors, nous, ce qui nous affole, c'est qu'il y a un silence sur ce thème, c'est-à-dire qu'on vient de passer des élections présidentielles. Le président, c'est lui, c'est un thème purement cantonné au président, et pas une personne n'a parlé de ce thème.
Si, il y avait la France en action.
Alors, il y a eu la France en action, si. Il y a eu la France en action, mais malheureusement qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose que les grands partis, mais si. Il y a eu aussi, quand même, faut le dire, José Bové et Olivier Besancenot, hein, qui... mais ça a été par rapport, je veux dire, aux heures de politique qui sont passées dans les médias, ça a été une goutte d'eau. C'est un thème qui n'a pas été évoqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a un consensus qui s'appelle silence en France.
Oui, et puis de toute façon, les Français, dès qu'on leur parle de l'armement nucléaire, ils trouvent que c'est bien qu'on soit justement en possession de cette arme.
Alors, je crois qu'il faut faire attention avec ça, parce que en fait, ça, c'est un point de vue qui est véhiculé par ceux qui veulent que l'armement nucléaire se perpétue. C'est-à-dire que tous les ans, il me semble, je crois que c'est tous les ans, il y a un sondage qui est fait, mais qui est fait, qui est commandé par le ministère de la Défense, hein, par l'armée en fait, qui fait un sondage qui prouve que, comme par hasard, tous les Français ils veulent d'accord. continuer, sont d'accord. Et franchement, c'est une façon insidieuse de faire croire qu'ils sont d'accord alors que rien n'a été discuté et que surtout personne n'est informé. C'est-à-dire que, et donc, pourquoi au cours de ces élections on a mis ce thème en avant ? Parce qu'il faut quand même que les personnes sachent le potentiel nucléaire de la France, que maintenant c'est plus une doctrine de dissuasion mais c'est une doctrine agressive. Mmh. Il faut qu'ils sachent le coût que ça a. C'est-à-dire que quand même, on investit près de 48 milliards d'euros par an pour détruire. Quand on regarde avec cette somme-là, on voit qu'avec 8 milliards d'euros, on peut rendre l'accès à l'eau potable pour toute la planète. On peut se rendre compte qu'on peut créer des postes d'enseignants, des postes d'infirmières. On se rend compte que le trou de la sécurité sociale, c'est même rien par rapport à ça. Qui en plus n'est pas un vrai trou. Mais enfin bon, ça c'est une autre discussion. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes se rendent compte que cet argent investi dans la vie, mais c'est un changement de société. C'est un changement de société véritable. Et donc, au-delà du désarmement, ce qu'on attire l'attention, c'est sur le thème de la violence, puisque finalement, l'armement nucléaire, c'est, on va dire, la pointe de l'iceberg qu'on arrive à voir, hein, mais qui reflète quoi ? Qui reflète un monde et une société basée sur la violence. Violence économique, violence physique, violence raciale, violence religieuse, violence sexuelle, toutes ces formes de violence qui sont le tréfonds sur lequel est basée aujourd'hui l'organisation de notre société. Donc, la chose fondamentale à remettre en question, et ça c'est une question que j'allais dire, les personnes qui nous écoutent, je peux m'adresser à chacun personnellement, c'est dans quelle direction on veut mener notre vie, sociale et personnelle, c'est-à-dire, il n'y a pas 10 alternatives, soit on va vers la destruction croissante, c'est-à-dire la spirale de la violence sans fin, il y aura un accident, enfin moi je veux pas, j'espère me tromper, mais
j'espère
il y en aura
aussi,
un.
Ouais.
Hein. Mais de toute façon, la spirale va croissante et croissante vers la violence, soit on va vers une autre voie, hein, qui est la paix croissante. Et je crois que notre planète aujourd'hui, bon, elle est mal en point avec évidemment la puissance nucléaire, etc. Elle est mal en point aussi au niveau de l'environnement. C'est-à-dire il y a pas 10 voies. C'est-à-dire soit on va vers la destruction, soit on va prendre conscience qu'il va falloir changer de direction. Et je crois que chacun peut se le poser cette question aussi au niveau personnel, puisqu'au niveau personnel c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est dans un monde basé sur une violence où l'employé il voit celui qui a pas de travail comme quelqu'un qui est plus ou moins fainéant, le cadre va dire l'employé bon c'est un incapable, c'est pour ça qu'il reste employé, le chef d'entreprise va dire le cadre c'est quelqu'un qui arrive pas à se prendre en charge et qui
c'est la faute de l'autre,
hein. Et donc il y a une espèce de chaîne comme ça de violence, hein, qui fait que celui qui est sous moi, avec la compétitivité, hein, comme mode de vie, celui qui est sous moi, j'ai peur qu'il me prenne ma place. Celui qui est au-dessus, je voudrais bien lui prendre. Et ceux qui sont à côté, c'est des concurrents. Ça, c'est une destruction sociale dans les quartiers, dans les familles, partout, mais qui est incroyable. C'est-à-dire, donc, la violence n'est pas un thème qu'on peut dire bon uniquement les gouvernants, les autres, etc. Je pense que c'est aussi un thème que chacun personnellement devra prendre en compte.
Alors on te dit, mais pour préparer la paix, il faut préparer la guerre.
Oui, c'est ce qu'on nous dit souvent. Il y a des personnes qui nous disent oui, mais à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, si on avait eu
on était trop gentils.
Ah oui, non, mais ça c'est des arguments connus. Disons que dans un contexte de violence, de toute façon, c'est sûr qu'il n'y a pas d'issue. Hein. Il faut préparer la non-violence. Il faut préparer une société de paix. Pourquoi ? Parce que cette spirale, de toute façon, depuis... parce qu'il y a des personnes qui disent, oui, mais grâce à la doctrine de la dissuasion nucléaire, il n'y a pas de guerre. C'est faux. Il y a près de 70 conflits dans le monde actuellement.
Oui,
hein, le nombre de morts,
tous
les jours qui meurent des armes, je ne sais plus combien c'est par minute, c'est 200, etc. Enfin bon, c'est assez monstrueux. Donc c'est faux que cette politique de défense amène la paix. C'est absolument faux. Par contre, effectivement, ça engraisse les amis de nos chers hommes politiques, parce que le complexe militaro-industriel, c'est une bonne affaire. Hein, et ça, on n'en parle pas suffisamment. Par exemple, dans les Nations Unies, il y a un Conseil national, il y a un Conseil de sécurité, pardon. Un Conseil de sécurité qui est censé, justement, faire en sorte qu'il y ait la paix dans le monde, dans les Nations Unies. Les 5 membres du Conseil de sécurité, c'est eux qui vendent le plus d'armes. Ils vendent 80% des armes dans le monde.
C'est pas leur intérêt
Quel intérêt ils ont que ça s'arrête?
Absolument pas. Hein?
Alors que le commerce des armes dans le monde, ça représente 30% de l'économie mondiale. Hein? Donc c'est monstrueux, c'est vente de la mort, c'est-à-dire quand on est un peu lucide, on se dit mais c'est n'importe quoi. Et je crois que si tout le monde était informé, je pense qu'il pourrait y avoir réellement un changement.
Ok, donc ce parti humaniste, vous vous êtes présenté là aux élections, vous aviez combien de candidats sur la France?
Alors on avait 75 candidats hein, dans 75 circonscriptions.
Et vous avez fait plus du pourcent qu'il fallait pour... vous avez fait plus d'un pourcent?
Non, on n'a pas fait plus d'un pourcent, hein, on a eu un score minuscule, hein, c'est-à-dire qu'on a eu 793 voix. Qui s'explique aisément, hein. c'est-à-dire ça s'explique aisément dans le sens, bon, là déjà une chose quand même qu'on a pu obtenir, c'est 1 minute 45 de télévision,
hein. Par rapport au grand parti.
Bon, enfin, c'est déjà ça, mais c'est vrai que c'est ridicule par rapport au grand parti. Bon. Mais après, il y a, disons, le frein, il est économique, c'est très très bien fait. On est vraiment dans une
pyramide.
Voilà, et dans une mascarade de démocratie. Hein. C'est-à-dire que j'avais calculé que pour qu'on se présente correctement avec des professions de foi, etc., dans l'ensemble des circonscriptions où on voulait, ça représentait 300 000 euros. Bon, des personnes comme vous et moi, c'est-à-dire qui sommes employés moyens, même si on le divise, mais on peut pas participer. Alors comment essayer d'avoir de l'argent? Alors bien sûr, il y a la loi de financement des partis politiques, quand même, qui distribue près de 73 millions d'euros.
C'est au grand parti.
Mais c'est au grand parti.
Mais oui, puisqu'il faut faire plus d'1%.
Voilà. Alors cette loi a changé en 2003, parce qu'avant elle le permettait aussi aux petits partis d'accéder à ça, mais de façon éthique, on va dire, on pense pas que ce soit aux contribuables de payer le parti politique. Nous, on n'a pas du tout rempli de dossier, par exemple, même pour le financement. On pense que c'est les adhésions d'un parti qui devraient le faire vivre. Par contre, ce qu'il devrait y avoir, c'est un accès égal à l'information pour que tout le monde puisse présenter, voilà, nous on fait ça, pour que les gens puissent effectivement adhérer. Mais il n'y a pas de raison que ça soit, par exemple, moi, j'ai pas du tout envie de financer le Front National avec mes impôts. Pas du tout. Et je pense que n'importe quel parti a ses adhérents et peut réaliser, s'autofinancer avec ça. Hein, ça évitera peut-être aussi des dépenses complètement délirantes. Hein. C'est-à-dire, on a vu le congrès d'investiture, quand Sarkozy était l'investiture de l'UMP, mais c'est absolument délirant, quoi. En millions d'euros, pour une soirée. C'est presque indécent, c'est-à-dire par rapport au problème qu'il y a, il y a près de 100 000 personnes qui sont sans SDF, etc. Alors je sais plus combien c'était, c'est 4 millions d'euros ou quoi, mais c'est indécent. Hein. Voilà, donc ce thème, je pense que les jeunes, ce sont eux qui peuvent prendre en charge un changement.
Hein. Ça a toujours été comme ça.
Ça a toujours été comme ça. Hein. Et pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont réprimés assez durement, en fait. À chaque fois qu'il y a eu des mouvements ces derniers temps, hein, soit il y avait quand même une répression assez dure, ensuite des comparutions immédiates, etc. Mais je pense
tu parles de qui, par exemple?
Le CPE, ce qui s'est passé lors du CPE, ce qui s'est passé même en banlieue, hein, quand il y a eu les événements en novembre 2005. C'est-à-dire, je suis pas du tout pour qu'on brûle les voitures, attention. Par contre, ça reflète bien une situation où les jeunes n'en peuvent plus et ils ont envie que ça change. Hein. Et disons que comme tout est tellement verrouillés, asphyxiés pour qu'il n'y ait aucune option possible, hein, parce que comme le sujet c'était quand même le scrutin majoritaire.
Qu'on va aborder juste après une pause musicale.
D'accord. D'accord. Bon, on en parle.
Qu'est-ce que tu nous as choisi comme pause?
Alors là, j'ai choisi Kenny Arcana, qui est une rappeuse. Alors moi je suis pas un rappeur, mais j'ai été extrêmement touché par ses textes. Peut-être on en parlera tout à l'heure. Elle fait une initiative formidable, s'appelle le Forum des Sans Voix. C'est fantastique.
Merci. Merci Francky.
Les pieds bétonnés dans le ciment, le regard vers l'infiniment grand. Siècle 21, prison de peur et d'illusions. Ils aimeraient nous faire croire que nos vies ne valent rien. Enfants déracinés, enfants des grands ensembles, élevés dans la violence du système, aux rêves brisés sous le poids de leur schéma. Perdus au cœur de la machine, il nous reste cette flamme, souffle de vie pour éclairer le chaos de leur monde. Parachutés dans l'histoire, enfants de la terre, prisonniers du ciment, ne perds pas de vue les étoiles. Entre la rage et la foi, entre la souffrance et l'espoir, entre la haine et l'amour, entre la rancœur et le pardon, entre le système et la vie, entre nos peurs et nos aspirations, entre la terre et le ciel, tiraillés dans une dualité permanente, entre ciment et belle étoile. J'ai l'heure, qu'une missile rentre dans la machine, m'arrache à mes sommaires. J'ai l'heure, ils ne pourront pas fliquer mon anarchie. J'ai l'heure, je suis trop à cran pour me formater, tu captes que je suis pas une rappeuse, mais une contestataire qui fait du rap. J'ai l'heure, ça vient du 13, M.A.R.S. pour les vilains en détresse, anti-système, les liens mangent ma sœur, mais dis-leur qu'on les crève. J'ai l'heure, j'aurai le poing levé jusqu'à ce qu'on vienne m'abattre. C'est l'heure, choisir son camp, la liberté d'expression en cavale. J'ai l'heure, j'en ai rien à péter des stars, marginal à la plume, énervé, s'il te plaît, ne mets pas sur un piédestal. Anonyme dans la masse avec un haut-parleur, j'ai l'heure qu'on croit en la justice du ciel et pas en la leur. J'ai l'heure, je suis pas de celle qui ne pense qu'à rafler. J'essaie de filer de la force par la foi, pas facile, avec un cœur balafré. Mon rap continue d'avancer sans une esquive, le missile est lancé, ça je te l'ai annoncé dans une esquive. J'ai l'heure que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice. Insurgés car leurs normes sont condamnatrices. Dis-leur que c'est temps des oubliés, le cœur des opprimés. Dis-leur qu'on nous a trop endoctrinés. Dis-leur que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice. Insurgés car leurs normes sont condamnatrices. Dis-leur que c'est temps des oubliés qui ne veulent plus être passifs. Dis-leur car mon rap on est assis. Dis-leur mon rap est un...
Voilà, nous sommes toujours dans l'émission, c'est-à-dire de 14 à 15 heures du lundi sur IDFM, le 98 de la bande FM avec Alain Duc du Parti Humaniste. Alors, le thème de l'émission aujourd'hui, ça devait être le
scrutin majoritaire,
majoritaire
pour les élections. Oui, ben, disons que normalement, une assemblée hein, de députés devrait représenter quand même un petit peu les gens, hein, puisque l'idée dans notre démocratie, hein, c'est que la souveraineté du peuple est représentée par ses représentants. Hein. Donc là, le scrutin tel qu'il est fait en France, c'est sûr qu'on se rend compte hein, au fil du temps qu'on aboutit, j'allais dire, à une petite caste de politiciens professionnels hein, qui sont indéboulonnables.
Mais ils sont bien.
Hein. Et ils sont bien. Non, mais c'est sûr, on a 5000 euros
mais quand on
par
joue
mois
une
de salaire.
Et puis quand on joue une partie qu'on gagne à tous les coups, il n'y a pas pour qu'on s'arrêterait.
Exactement.
C'est jackpot à chaque fois.
Et c'est jackpot à chaque fois, pourquoi? Ben parce qu'une fois qu'on a installé, il y a des réseaux, il y a des réseaux qui fait qu'on reste indéboulonnable. Puisqu'en général, il faut dire que quand même la spécificité française, hein, c'est que 85% des députés et des sénateurs cumulent des mandats. Je dis c'est une spécificité française parce qu'il ne faudrait pas croire que c'est partout la même chose, non? En Allemagne, c'est 10%.
Il y a même des pays où c'est interdit.
Hein, donc là, il y a un cumul en France qui est dans le moment même, puisque des personnes cumulent plusieurs mandats, donc qui font que d'ailleurs ils ne peuvent pas faire, enfin ils disent qu'ils peuvent faire bien, mais c'est pas vrai, ils ne sont pas à l'Assemblée. Hein, et d'autre part, ils le cumulent dans le temps, parce qu'on se retrouve avec des personnes, ça fait 20 ans, 25 ans, etc. Donc ça, c'est absolument antidémocratique. Hein. C'est complètement antidémocratique. Alors, notre assemblée, elle est composée de personnes qui sont en majorité de les castes les plus favorisées, hein. C'est-à-dire, je crois qu'il y a 4% qui
les seigneurs, on appelle ça.
Voilà.
Ou avec un A ou avec un E, on ne sait pas exactement.
Oui, c'est vrai. Voilà. 12% de femmes. Alors maintenant, c'est passé à 18% depuis hier. Mais franchement, c'est une super honte. Hein, faut quand même le dire. Et puis bon, c'est des personnes qui sont en moyenne d'âge 58 ans, mais dont les deux tiers dépassent les 60 ans, etc. Donc, ils représentent absolument pas la population, non plus dans sa composante, on va dire, culturelle, la diversité culturelle qu'il y a, hein, avec des personnes qui viennent de différents continents ici en France, enfin qui sont français, mais d'origine diverse. Hein, puisque je crois que cette fois-ci, il n'y a qu'une personne qui est d'origine guadeloupéenne qui a réussi à passer au milieu des 577. C'est véritablement honteux. Alors le scrutin tel qu'il est fait, ben, comment ça se passe? Ben, il faut avoir, mis à part toutes ces conditions qu'on a vues de financement qu'on n'a pas, mis à part donc ces lois qui sont bien sûr faites par qui? Par les députés, hein, c'est-à-dire toute la question du financement, du mode de scrutin, etc., c'est quand même les députés qui légifèrent, donc forcément ils légifèrent en leur faveur. Hein, ce qui permet qu'eux se perpétuent et que d'autres ne puissent pas rentrer dans les enceintes de ce Parlement. Au niveau de l'Assemblée nationale, là, qu'on va avoir, donc, ça va se perpétuer la même chose que qu'on a vu jusqu'à présent. Hein. Donc la seule issue, en fait, on dit pour l'humanité, hein, c'est la diversité. C'est-à-dire que aujourd'hui, personne ne peut nier que c'est une crise absolue quand même dans le système, et en particulier aussi en France, hein, qui est un des pays du monde. Et d'où peuvent sortir les solutions? Eh bien, justement, des minorités, de la diversité. C'est-à-dire que si c'est toujours les mêmes qui continuent, ben la même chose va se perpétuer.
Oui, puis ça serait si ça pouvait changer.
Donc là, comment se passent les choses? En plus, avant les élections, on promet monts et merveilles, et après les élections, elles ne sont
pas... Ne serait-ce que sur le pacte écologique, hein, où je vois que la culture OGM va être autorisée pratiquement partout en France.
Ouais. Alors c'est
qu'ils avaient signé le contraire avant.
Ouais, ouais. C'est gonflé, en plus, après avoir reçu les organisations, oui, juste après le lendemain des élections, enfin c'est vraiment...
Moi, je vois en Bourgogne, il n'y en avait pas, puisqu'il suffisait de taper sur de cliquer sur Internet, il y avait un tas de régions où encore il n'y en avait pas. Dans le petit village à côté de chez moi, ça y est, c'est autorisé, ça démarre.
Voilà, alors sur toutes ces questions-là qui sont vraiment d'importance, vraiment, il devrait y avoir des référendums. Hein, c'est-à-dire, les députés ne peuvent pas choisir, d'autant qu'ils représentent, on va dire, presque
qu'eux-mêmes. Mais qui est-ce qui a donné le feu vert, là, pour ce pacte-là, enfin, pour donner la permission? Qu'est-ce qui a donné le feu vert?
Là, de toute façon, ils avaient fait une espèce de super ministère avec Alain Juppé, et puis ils ont fait une représentation le lendemain des élections. C'est une représentation où vous invitez les organisations écologiques.
Est-ce que c'était si pressé de signer ce... avant que ça se remette en place? Je veux dire, il y a quand même des choses bizarres. Pourquoi
on se met bizarres, ouais,
vite fait, alors qu'en ce moment, je veux dire, il y a une passation de pouvoir, donc on n'a qu'à attendre que les nouveaux arrivent en place, puisque les Français les ont mis. Je ne comprends pas comment on puisse se permettre de se dépêcher de passer des choses, là.
Je pense que là, tu mets le point sur un endroit, justement, qui fait mal, mais qui est le point. C'est-à-dire, qui vraiment gouverne, hein? Est-ce que c'est ceux qu'on a élus? Ou est-ce que c'est les lobbies, les grosses entreprises, hein, qui sont derrière? Et il faut le dire, ben c'est bien ça. C'est-à-dire que si on commence à regarder derrière la façade, on va se rendre compte de quoi? Déjà que 80% des lois qui passent, hein, qui 75, je me souviens plus, des lois, c'est pour être en harmonie avec ce qui a été ce qui est venu au niveau de l'Europe, hein, de la législation européenne.
Elles sont pas mauvaises, hein, des fois, ces lois européennes, hein.
Elles sont pas mauvaises, mais il faut savoir comment c'est fait.
Si, en général, il y en a, oui, en général, y en a certaines
qui pourraient
nous avantager.
Sûr, on peut empêcher deux, trois.
Il y en a certaines qui pourraient être intéressantes et par contre qui ne passent pas en France.
Voilà. Hein. Oui, mais globalement, hein, la construction européenne, bon, c'est des personnes qui ne sont pas élues, hein, qui décident. Hein, et le Parlement européen est de façade. Et dans qui décide, on va dire, de l'ordre du jour, hein, de la Commission européenne, etc. En fait, derrière, on va retrouver le European Roundtable, c'est-à-dire qui regroupe toutes les grosses industries et les grandes entreprises européennes. Hein, l'ERT, c'est ça, l'European Roundtable. Il y a un autre pour un pacte transatlantique, etc. C'est-à-dire des gros groupes économiques qui, en fait, eux vont décider de l'ordre du jour, et en réalité toutes les recommandations de ces instances-là sont celles qui sont appliquées au niveau de l'européenne et au niveau européen et qui se reflètent ensuite au niveau national. Et c'est comme ça qu'on va privatiser l'électricité, enfin qui est privatisée à partir du 1er juillet.
Et qui augmente de 12%, je crois, au mois d'août déjà, quand vous serez en vacances.
Ouais,
c'est ça, hein.
Ouais. Donc, en termes de démocratie, il y a une vitrine démocratique qui fait comme s'il y avait un débat démocratique, mais en réalité, il n'y a pas de débat démocratique.
Moi, je me chauffais, je m'éclairais la bougie, moi. Ça pour rire. Donc, le sujet de l'émission aujourd'hui, c'est quoi ça? Comment on pourrait faire? Je veux dire.
Alors comment on pourrait faire
là? Le système est vicié. Je vois pas comment on peut.
Alors voilà, il y a beaucoup d'espoir parce que effectivement cette démocratie, on va dire, elle est de façade, elle est tout ce qu'on veut. Bon, mais bien sûr, c'est une avancée par rapport à la dictature, hein, et c'est une avancée par rapport au temps des seigneurs, etc. C'est-à-dire, faut le voir dans le temps. C'est-à-dire que j'allais dire avant, peut-être que nous arrivait quelque chose pour se venger, on allait tuer toute la famille de l'ennemi. Et maintenant, bon, il y a un peu de justice. Donc on avance. Mais faut dire quand même que c'est très préhistorique, cette démocratie. Donc on peut aller beaucoup plus loin avec la démocratie participative.
Comme
la démocratie
en Suisse.
Voilà, mais avec des vrais campagnes
d'information. Qui sont un vrai pays de paix.
Hein. Mais
ils ne sont pas armés.
Ils sont pas armés, mais ils sont armés financièrement.
Oui, voilà. C'est-à-dire, ils planquent tous les capitaux là-bas.
Ouais,
donc
ils ont des armes de destruction massive d'un autre type. Mais disons que il faut voir aussi l'information qui accompagne, parce qu'en Suisse, c'est pas tout à fait bien fait. Bien sûr, il y a des référendums surtout, mais au niveau des campagnes d'information, c'est pas vraiment ça. Hein? Mais oui, on peut avancer vers une démocratie réelle. Alors, la démocratie réelle, je crois qu'elle commence déjà dans les quartiers. Elle commence déjà avec la participation des habitants au sein de leur quartier.
Les communes.
Voilà, le vote du budget, etc. La participation aux décisions. Hein, pas simplement la consultation pour faire comme si on a consulté les gens, mais réellement aux décisions.
Est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour des caméras électroniques, pour plus de police, pour construire des choses de luxe alors que, et pas de logements sociaux? Est-ce que vous êtes d'accord pour...
Et avec des véritables campagnes d'information. Parce que ce qui se passe de danger, en fait, ce que soulèvent souvent les personnes par rapport au référendum, c'est qu'effectivement, les personnes peuvent choisir quelque chose qui est complètement catastrophique. Hein, l'exemple qu'on dit le plus souvent, c'est la peine de mort. Hein. Mais
par commune, on aurait des communes avec des peines de mort comme aux États-Unis.
Non, je crois que d'abord les choses ont beaucoup changé. Et ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de forme de participation, par exemple pour les jeunes. Hein, si on ouvre les voies de participation, on va être surpris des résultats. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de participer. Donc ça, je rebondis un petit peu sur ce que j'ai vu une fois. Je suis allé au Forum des Sans Voix, hein, en tant que participant.
C'est quoi le Forum des Sans Voix?
Donc le Forum de Sans Voix, c'est une initiative qui a été lancée par Kenny Arcana, je crois, et des proches à elle, pour donner la voix aux jeunes qui n'ont jamais la voix au chapitre. Hein, donc on voit qu'il y a beaucoup de jeunes. Non, c'est pas qu'on dit les jeunes s'intéressent pas à prendre les choses en main. Non, c'est tout le contraire. On voyait qu'il y avait une forte, très forte envie. Nous, on le voit aussi au sein du Parti Humaniste, du Mouvement Humaniste, dans tout ce qu'on fait. Hein, c'est-à-dire
quelle moyenne d'âge vous avez dans le Parti Humaniste?
Moi, je dirais que ça doit être la trentaine, hein, 30, 35, peut-être, même si vers la trentaine. Non, moins. Moi, je suis des plus anciens, si vous voulez, mais non, c'est quand même plus jeune. Plutôt autour de la trentaine. Hein, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées. C'est-à-dire, en termes de démocratie, nous, on propose, par exemple, un plan d'action municipal. C'est-à-dire qu'au niveau local, que les gens fassent un projet ensemble, un projet au niveau de la municipalité qui soit mis en œuvre par les habitants. Hein. Par exemple, c'est-à-dire que concrètement, comme le tissu social est vraiment laminé, hein, avec l'individualisme, ça semble impossible. En réalité, il faut passer par une reconstruction du tissu social, une reconstruction des liens.
Dans les quartiers.
Et ça, c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on se présente au niveau local, ce qu'on va faire, par exemple, là, en vue des municipales, mais pas simplement pour se présenter aux municipales, mais aussi pour s'enraciner, rétablir le contact entre les générations, entre les personnes, parce qu'il y a, c'est-à-dire que, par exemple, au Forum des Sans Voix, quand je suis allé, il y a 1000 idées à la seconde. Hein. C'est pas stérile. Hein. C'est pas stérile. Donc, si on ouvrait les voies de participation, alors ça, je dis, au niveau démocratique, on aurait des surprises, parce que je pense qu'il peut y avoir beaucoup de nouvelles idées qui surgissent, et aussi au niveau des entreprises. Au niveau des entreprises, c'est absolument antidémocratique, il n'y a pas de démocratie. Hein, je pense qu'au niveau économique, il faut remettre sur le tapis les questions fondamentales, c'est-à-dire la relation entre le travail et le capital.
On va être traité de communiste, là.
Non, c'est-à-dire que le travail capital, même les libéraux en parlent, hein, c'est-à-dire qu'eux, ils sont tout pour le capital, rien pour le travail. Bon, c'est un choix. Hein. Nous, on pense que, oui, parce que eux, ils prétextent que, comme la personne qui investit de l'argent, elle prend un risque, elle doit avoir tous les droits. On dit que la personne qui travaille, elle prend aussi un risque. Elle prend le risque de perdre son emploi. Elle prend le risque quand elle travaille depuis une entreprise depuis 15 ans. Elle a beaucoup de risques dans le sens où elle s'est peut-être acheté un logement ou elle loue un logement à côté de l'entreprise. Sa famille est implantée là, etc.
Elle a des crédits sur le dos.
Voilà, donc si la personne perd son emploi, elle a un énorme risque. Donc, à risque partagé, il devrait y avoir pouvoir de décision partagé, hein, au sein de l'entreprise. Donc là, on a des propositions de loi, hein, c'est-à-dire, si tu veux, quelques-unes, hein, en termes de économique, hein, c'est une loi qui permette la propriété des travailleurs et une loi qui permette la gestion, le partage de la gestion et des décisions au sein de l'entreprise.
Hein. Alors, vous êtes classé, vous, dans les gauches, vous, quand même?
On est classé gauche.
Complètement à gauche-gauche ou au milieu de la gauche ou
presque... Disons qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout a tellement changé que, comme la gauche, genre Parti Socialiste, est devenue à droite, bon, enfin, du coup, c'est vrai que la gauche et la droite ne veulent plus dire grand-chose.
Et le centre non plus. Hein,
le centre
devient le milieu, mais on le milieu de quoi
Donc, puisque Sarkozy parle de Jaurès et puis Ségolène Royal du drapeau national, bon, c'est vrai qu'on est un peu confondu. Mais oui, on pourrait dire qu'on est à gauche, mais je dirais qu'on est progressiste.
Vous n'êtes pas à l'extrême gauche, quand même.
Non, on n'est pas à l'extrême gauche. On n'est pas bien qu'on se sente très proche finalement de propositions de la LCR, hein,
qui est le parti le plus à gauche,
qui est un des partis des plus à gauche, mais qui sur certains points, on est complètement d'accord, hein, sur la redistribution pardon de la richesse. Oui, hein, absolument. Hein, sur la régularisation de tous les sans-papiers, nous aussi, on pense qu'il faut régulariser. D'ailleurs, on dirait même qu'il faut aller plus loin, il faut accorder le droit de vote et même d'être élu, hein,
aux immigrés.
Mais oui, bien
ça
sûr.
Ça me semble logique, comme en Angleterre.
C'est complètement logique. Donc, j'allais dire qu'on a on a beaucoup de chantiers, et ces chantiers-là, je pense que dans la mesure où les personnes prennent conscience que dans cette direction jusqu'à laquelle on est poussé jusqu'à présent, il n'y a pas d'issue, et si on se rend compte qu'il va falloir s'y mettre, c'est-à-dire que on peut pas continuer à déléguer le pouvoir politique à une poignée de gens.
Et on délègue pas parce que je pense qu'on n'a pas le choix. Je veux dire que tout est un peu pipé d'avance.
Oui, effectivement. Oui. Mais disons qu'il pourrait y avoir quand même une participation, la création de nouvelles forces et aussi voter pour des nouvelles listes, des nouveaux partis, des partis plus petits. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a cette possibilité-là par rapport au scrutin qui vient de se dérouler, par exemple.
Hein. Alors là, on a fini les présidentielles et législatives. Oui. Arrivent les communales vers mars. Oui. Qui peut se mettre sur une communale? Puisque tu dis qu'il faut d'abord travailler sur les communes. Alors, oui. C'est compliqué pour se mettre sur une liste en tant que communale?
Non, c'est très facile.
Il faut plusieurs personnes dans la commune.
Voilà, hein, il faut selon les endroits, une trentaine de personnes. J'allais dire, j'invite même les personnes qui ont des idées en commun à faire leur propre liste. S'ils veulent au nom du Parti Humaniste, mais s'ils veulent, ils le font même en leur nom propre. Hein, mais il faut utiliser cet outil démocratique des élections pour faire pression sur les élus, pour être représentés au conseil municipal, pour pousser en avant et mettre en avant nos valeurs.
Alors sur une commune par exemple de 300 habitants, il ne faut pas 30 personnes quand même.
Non, ça dépend des communes. Moi je vais parler des communes ici en Seine-Saint-Denis, enfin, parce que moi, je suis de Seine-Saint-Denis, la commune où je suis, mais oui, ça dépend bien sûr des communes. Hein. Le futur, c'est vraiment la participation des personnes à la vie sociale. Le futur, c'est vraiment les jeunes qui apportent ce qu'ils ont dans le cœur. C'est-à-dire qu'il y a un grand décalage entre l'organisation politique qui est vraiment archaïque et ce qu'il y a dans le cœur des gens. Maintenant, ce qui doit s'exprimer, c'est ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et il ne faut pas se retenir, j'allais dire, il faut pas d'autocensure. C'est à la portée de tout le monde. On peut vraiment changer le monde, mais il faut s'y mettre. Hein, donc souvent il y a des personnes qui ont des élans à l'intérieur, même quand ils suivent peut-être à la télévision, mais d'un coup ils ont des élans. Cet élan-là, il faut le mettre dans le monde, il faut l'appliquer dans le monde. Et alors pour un premier pas, enfin pour permettre la participation de tous à une cause qui me semble la plus importante au jour d'aujourd'hui, une Europe sans armes nucléaires, je vous invite à signer une pétition. Hein, qui regroupe d'ailleurs des gens aussi divers que Gorbatchev, Noam Chomsky, etc., pour une Europe sans armes nucléaires. C'est sur le site www.europeforpeace.eu.
Europeforpeace, dans un seul mot.
Oui, Europeforpeace.
C'est en anglais cette pétition.
Oui, mais c'est traduit en français aussi. Hein. C'est traduit en plusieurs langues. Et puis aussi à s'ajouter à des personnes, créer des comités pour informer déjà notre entourage sur ce danger de l'armement nucléaire, parce que je crois que c'est une des priorités pour faire pression sur les élus pour qu'eux-mêmes répercutent ces pressions. C'est-à-dire que s'il y a un mouvement pacifiste fort, cette chose-là va changer. Et plus loin, au-delà même du mouvement pacifiste, j'inviterai tout le monde à agir en faveur de la non-violence dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire à rejeter la violence, à dénoncer toute forme d'injustice et de violence qu'il voit autour de lui. Et pourquoi pas donc à se présenter au municipal avec une liste non violente et qui permette une ample participation de toutes les couches sociales.
Alors non violence dans la famille, dans le quartier, c'est-à-dire avec ses voisins, avec son boulot, enfin voilà, c'est déjà un grand travail.
C'est un grand travail.
C'est pas si évident que ça.
C'est un travail qui est merveilleux, qui est passionnant, c'est-à-dire c'est une autre vie de vivre avec la non-violence que de vivre avec la violence. Quelqu'un qui est toujours dans la revanche, quelqu'un qui est toujours dans l'envie, dans la jalousie, etc., il vit avec ces images à l'intérieur de lui et il se relationne à partir de ça. Quelqu'un qui vit avec la non-violence, il y a une lumière à l'intérieur qu'on voit dans les yeux de la personne qui est en face. On commence à communiquer, on commence à voir au-delà des apparences et on se rend compte que le futur est vraiment ouvert et un monde humaniste, c'est vraiment possible maintenant.
Alors, votre parti, c'est Parti Humaniste. Vous tapez Parti Humaniste et vous tombez sur le site...
www.partihumaniste.fr.
Voilà. Et ben moi, je te remercie d'avoir quand même réussi à nous rejoindre. Donc, et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, quelque chose que tu veux donner? Non,
je pense que le site, il y a tous les coordonnées dedans, hein, donc www.partihumaniste.fr. Et puis, je souhaite à tout le monde donc de prendre cette envie qu'il y a à l'intérieur de faire changer le monde et de le concrétiser à l'extérieur et d'en parler à tout le monde.
Sinon, c'était Europe Peace.
www.europeforpeace.eu.
Voilà, peace.eu, donc Europe.
Oui.
Et voilà, donc t'as rien à rajouter si tu... Non.
Ah si on me permet d'ajouter quelque chose.
Petite minute.
Je dirais qu'on n'est pas tout seul à agir, qu'il y a des millions de personnes qui agissent comme ça dans le monde, hein, et qu'il y a un grand rendez-vous justement, on va dire presque, qui dépasse largement le politique, mais j'allais dire qui est le rendez-vous du cœur, qui va être en 2010 en Argentine, entre toutes les personnes du monde qui veulent un monde de paix. Et ça se passera dans la cordillère des Andes. Alors on en reparlera, c'est en 2010, on a le temps, mais... Et je tiens à le dire, ça se passera dans pleine cordillère des Andes, à Punta de Vacas, un lieu très très particulier, un rendez-vous mondial. Donc je le communique dès maintenant et on en reparlera plus tard.
Alors allez-y en train, en voiture, à la nage. Pour 2010, si c'est à la nage, vous commencez à vous préparer. Voilà, ben, je te remercie Alain Duc, du DUCK du Parti Humaniste. Et je remercie Francky d'avoir été à la technique aujourd'hui.
Merci à tous.
Prochaine.
Au revoir.